Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Au revoir est un podcast consacré au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse ou quelque temps après sa naissance. Par conséquent, les épisodes de ce programme abordent des questions sensibles et douloureuses. Avec mes invités, nous parlerons notamment de fausses couches, d'interruptions médicales de grossesse, de mort in utero ou encore de disparition d'un enfant de quelques jours ou quelques semaines. Assurez-vous de pouvoir écouter les épisodes dans de bonnes conditions. Et surtout, n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une bonne écoute.
Enfin, moi, le souvenir que j'ai de cette période était vis-à-vis de la PMA, que j'y croyais plus et que j'étais déprimée et que c'était vraiment... Ça a été ce moment-là, tu vois, où vraiment je voyais plus la lumière au bout du tunnel, quoi, vraiment. Et puis surtout, en fait, j'étais comme, tu sais, quand t'as peur d'avoir mal. Il y avait vraiment ce truc où je me disais, mais en fait, maintenant, j'ai même peur d'être enceinte parce que j'ai peur de encore vivre ça et j'en peux plus vivre ça, quoi. J'ai plus l'espace pour être heureuse d'être enceinte, j'ai plus l'espace de ça, j'ai que peur, en fait. C'est que de la douleur. Et en fait, bah, ce qui s'est passé, c'est que la dernière stimulation qu'on a faite, j'avais un ovocyte qui avait grandi. et moi, je me souviens vraiment être dans le cabinet du médecin et avoir su que c'était la dernière. M'être dit, ok, ça marchera jamais. C'est sûr. Ça peut marcher sur un miracle, donc on peut décider qu'on va tenter des miracles tout le temps, mais moi, je pense que ça marchera jamais et je peux plus. Ça a été évidemment, je dirais, 4-5 jours vraiment horribles. Ça a été 4-5 jours de même, enfin, j'ai même fait des attaques de panique, enfin, vraiment, j'ai plus dormi, c'est la seule fois de ma vie où j'ai pris des calmants parce que je dormais plus du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, j'avais une tête qui était, j'étais méconnaissable. Ça a duré quelques jours. Et ça n'a pas duré longtemps, mais ça a duré comme 4-5 jours. Et au terme de ces 4-5 jours, donc, on a commencé à réfléchir à l'idée du don d'ovocytes. Mais ce qui est très bizarre, c'est que moi, à ce moment-là, ça a été vraiment le moment où j'ai vraiment pour de vrai senti, ok, on aura peut-être un enfant ou on n'en aura peut-être pas et c'est ok. Ça a été vraiment l'instant où j'ai décidé que c'était fini la souffrance liée à ça, que c'était fini de refuser à 100% l'idée qu'il n'y ait pas d'enfant dans notre vie et que maintenant, ça allait être un parcours qui allait se faire et que dans tous les cas, ça allait être bien et que ça allait être cool et qu'on allait être heureux et que ça allait pas jouer qu'on ait un enfant ou pas, que si on avait un enfant, bah, on aurait un enfant, puis on verrait ce que c'est de la vie avec un enfant et que si ça n'arrivait pas, et ben ça n'arriverait pas.
Dans chaque épisode, j'essaie à ma façon de lever le voile sur le deuil périnatal. Ça fait un an que je tente d'en montrer de multiples facettes et de donner la parole à des femmes et à des hommes qui ont vécu des choses différentes, certes, mais dont les questionnements, parfois et même souvent, se recoupent. D'ailleurs, il y a un aspect qui revient régulièrement quand on parle de deuil périnatal, c'est la question de la grossesse d'après, celle qui survient après le drame, après la grossesse arrêtée au premier trimestre, après l'interruption médicale de grossesse, après la mort fœtale in utero par exemple. Parfois, en fonction des trajectoires, c'est même après plusieurs deuils qu'on finit par retomber enceinte et par accueillir cet enfant vivant, tant désiré. Ça y est, il est né, il vit, il respire, et on reprend son souffle. C'est un peu comme une sorte de happy end. Alors non, on n'oublie jamais et on ne tourne jamais complètement la page du deuil périnatal, c'est certain. L'histoire, elle n'est pas terminée. Mais c'est comme si un chapitre prenait fin et qu'une nouvelle aventure pouvait commencer sur une note un peu plus joyeuse, un peu plus douce. D'ailleurs, dans les communautés de parents endeuillés, on parle souvent de grossesse arc-en-ciel. L'expression ne fait pas l'unanimité, mais elle est largement relayée. Mais parfois, après la pluie, le beau temps ne revient pas nécessairement sous les traits d'un bébé. Parfois, la grossesse d'après, elle tourne court et on se prend une nouvelle porte en pleine figure. Et puis, de temps en temps, il n'y aura plus de grossesse. il n'y aura pas d'enfant à porter dans les bras et pas d'enfant à câliner. Et je me suis rendu compte que cet aspect, je ne l'avais pas abordé, je ne l'avais pas questionné. Je n'avais pas laissé la parole à quelqu'un qui l'a vécu. Et pourtant, combien de femmes touchées par le deuil dès leur première grossesse n'ont pas eu la possibilité de retomber enceinte ? Combien de femmes, mais aussi d'hommes, ont dû faire le deuil de l'idée d'agrandir leur famille à cause d'un problème de fertilité, à cause d'un problème de PMA qui ne fonctionne pas, à cause de risques, d'une maladie génétique, à cause de la peur de la récidive, à cause de la peur qu'un problème intervienne de nouveau ? Ils sont où, ces femmes et ces hommes, invisibles parmi les invisibles, mais dont la parole pourrait faire du bien à celles et ceux qui se posent des questions, à celles et ceux qui doutent, à celles et ceux qui se demandent si un jour ça marchera. Pour ce premier long témoignage de la saison, mon invité a décidé de partager avec vous son parcours. Un parcours rythmé par les protocoles médicaux, un parcours qui a abouti à deux grossesses, un parcours qui a rencontré le deuil, mais aussi un parcours qui les a menés, son époux et elle, à renoncer à toutes les projections familiales qu'ils avaient élaborées et nourries pendant tant d'années. Anne Solange, mon invitée, n'a pas connu la grossesse arc-en-ciel, certes, mais des couleurs, je peux vous assurer qu'elle a décidé d'en mettre dans sa vie. Au revoir podcast, épisode 22, Anne Solange, vivre une vie sans enfant. Dans cet épisode, c'est la voix d'Anne Solange que vous allez entendre. Anne Solange, elle a 42 ans et vit depuis quelques mois en Bretagne avec son mari David. Anne Solange, vous avez peut-être déjà croisé sa route, car elle a alimenté assidûment pendant des années son blog intitulé Cachemire et Soie et un compte Instagram. Anne Solange y parle de photographie, de dessin, de son rapport à la vie, et dans sa vie, il y a un aspect qui a pris une place énorme il y a quelques années, la PMA. Procréation médicalement assistée. Anne Solange fait partie de ces femmes qui ont dû faire appel à la médecine pour espérer pouvoir fonder une famille. D'après une récente étude, 1,25% des femmes de 20 à 49 ans ont été traitées pour infertilité en France entre 2008 et 2017. Ça représente environ 150 000 femmes par an. Anne Solange a fait partie de ces femmes-là. C'est en 2014, après déjà pas mal de temps à essayer d'avoir un enfant, que Anne Solange et David engagent un protocole de PMA pour tenter de concrétiser leur rêve de fonder une famille. Au début, ils sont confiants et sereins, même si les années filent et que les à côté de la PMA finissent par rythmer tous les aspects de leur vie.
Pendant des années, mon blog, mon compte Instagram, ça a été des lieux où je prélevais des choses et des événements de ma vie pour raconter quelque chose et pour en tirer des histoires et pour créer de la conversation autour de ça. Donc, en fait, le fait d'être en PMA, c'était la même chose que de parler de mon travail et tout ça. Il y avait a priori pas de raison que je taise ça. Moi, je fais vraiment partie des gens qui sont convaincus que les tabous, c'est quelque chose qui nuit énormément à nos relations aux uns et aux autres. Pour moi, c'était assez naturel de me dire, je me sens capable d'en parler, et donc j'en parle, et puis c'est tout. Et puis le fait de sentir que ça trouvait une résonance, ça a fait que j'en ai parlé encore plus. Et puis voilà, il y a eu ce truc aussi que voilà, c'était vraiment la manière, c'était ce que je racontais sur mon blog, c'était ma vie privée. Et en fait, pendant des années, ma vie privée, c'était juste la PMA. Donc de toute façon, il n'y avait pas non plus grand chose d'autre à dire, parce que je ne pensais qu'à ça. Enfin, comme tous les gens qui vivent un parcours comme ça, ma vie était rythmée à 100%. Par les piqûres, les rendez-vous chez le médecin, l'attente, les ponctions, les machins. Donc du coup, c'était ça ma vie. Donc du coup, j'en parlais. Au début, vraiment, j'ai eu le sentiment qu'on a eu tous les deux, parce qu'on a parlé avec mon mari, donc je peux parler pour lui aussi, ça a été vraiment de se dire, ça y est, le problème est réglé, quoi. Vraiment, je pense qu'on était... on s'est dit, dès qu'on est allé voir le médecin, qu'on a commencé à être pris en charge, c'était vraiment un peu, ok, problème solve, dans 6 mois, c'est plié. Et puis, progressivement, je pense qu'il s'est passé ce qui se passe dans toutes les situations où ça te demande une énergie constante et, comment dire ça, des émotions en dents de scie. Parce qu'en fait, quand même, je pense qu'une des particularités de la PMA comme épreuve, c'est que c'est vraiment une épreuve de marathon, un petit peu. Si ça dure pas, si ça marche pas tout de suite, tu rentres dans un moment où... tu passes de c'est super, ça va marcher, à ok, ça va marcher, mais ça va peut-être prendre du temps. Donc du coup, émotionnellement, c'est plus comme dans la course de fond, quoi. Ça veut dire qu'on se prépare à plus être dans une attente immédiate de quelque chose, et ça demande quand même tellement d'implication qu'il faut quand même y croire et qu'il faut quand même garder espoir. Et qu'en même temps, au quotidien, il faut vraiment se sentir capable de lâcher, d'être pas trop, enfin, c'est comme si à la fois il fallait être impliqué et pas impliqué, ce qui est, je pense, totalement impossible pour un cerveau humain. Et donc, bah, du coup, c'est une sorte de frottement permanent et de montagne russe permanente entre toutes les émotions, de l'attente, de la peur que ça marche pas, de l'espoir que ça marche, de la tentative, parfois désespérée, de lâcher prise, ce qui veut tout dire, parce que lâcher prise, c'est le contraire d'être d'une tentative désespérée. Et en même temps, bah, je me revois faire des méditations de lâcher prise, des méditations de la fécondité, des trucs. Et en vrai, ça partait d'un désespoir et d'une tristesse qui était tellement profonde liée à ça que c'était juste des manières juste de supporter à la fin. C'était vraiment juste des façons de faire un pas de plus et de faire passer une journée, quoi.
En 2018, après 4 années intensives de stimulation, puis d'insémination artificielle et enfin de fécondation in vitro, Anne Solange tombe enceinte pour la première fois. Pourtant, elle n'y croyait plus et elle était convaincue, au moment de faire sa prise de sang, que sa dernière tentative de fécondation in vitro n'avait pas fonctionné.
En fait, j'ai eu des petites pertes sanguines, genre au moment de, je pense, deux jours avant. Donc en fait, j'étais certaine de ne pas être enceinte. Et je ne sais pas ce qui m'a pris, je me suis quand même dit, tiens, je vais le faire quand même, je vais aller faire la prise de sang, je n'ai pas fait de test de grossesse, je suis allée faire la prise de sang. Et donc, on a reçu le truc. Et j'étais tellement au bout de ça que j'ai demandé même à mon mari de regarder. Je lui ai dit, je peux plus. Je regarde là, toi, le résultat. Moi, je veux plus passer ma journée à attendre ce résultat, le regarder. Regarde-toi. C'est la première fois où je lui dis ça. Et lui, il est rentré dans la pièce en me disant, ben, je voudrais que tu me dises parce que je comprends pas la lecture du truc. En fait, ils te mettent quand c'est négatif, mais ils mettent pas positif quand c'est positif. Du coup, j'ai eu un moment de, je sais pas. Donc, on a appelé la dame du labo qui nous a dit, ah bah oui, vous êtes enceinte, puis vous êtes bien enceinte. Et je pense qu'on a dû passer 24 heures, de stupeur, parce que c'était curieux, parce que physiquement, moi, j'avais pas de symptômes de rien et je m'attendais à en avoir, en fait. Donc, c'était vraiment étrange. Et puis quand même, je me suis vraiment fait vite à cette idée, moi. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que on avait 3 semaines de vacances et on devait partir. Et on était chez ma mère. Et après, on s'est dit, mais on va pas se revoir avant je sais pas combien de temps. Et du coup, on lui a dit à maman. Et du coup, on en a parlé. On a dit que j'étais enceinte. Et donc, on a quand même eu la chance, dans cette tristesse, de vivre vraiment des moments de joie, mais vraiment très très fort. Un moment incroyable, on était sur la plage, au coucher du soleil, on a pris l'apéro, c'était genre... Enfin, on a pris l'apéro, du coup, moi non. Mais voilà, on était ensemble, et maman, évidemment, elle était elle aussi, elle a fondu en larmes, donc bref, c'était vraiment des super moments. Et en fait, on a décidé qu'on allait lui dire. Du coup, quand on a annoncé qu'on attendait un bébé... à toutes les personnes qui étaient avec nous, on a vraiment vécu pendant, jusqu'à ce que ce soit l'horreur, ça a été une suite ininterrompue de moments de grâce, en fait. C'est pas compliqué, tous les gens à qui on l'annonçait fondaient en larmes, donc c'était c'était simple, on a passé notre temps à pleurer ensemble de joie et de... Mais voilà, donc du coup, tu vois, t'as eu ce moment vraiment de joie ininterrompue pendant 3 mois. Aujourd'hui, à la lumière de ce qui s'est passé, je suis tellement heureuse qu'on en ait parlé, qu'on n'ait pas gardé ça pour nous. En plus, moi, on m'avait dit, alors pas de chance, le médecin nous avait dit, vous ferez pas de fausse couche, parce qu'il avait l'air très très bien accroché. Donc dès la mini échographie des 6 semaines, nous avait dit, oh, pas de problème, tout va bien, il bouge bien, vous ferez pas de fausse couche. Donc du coup, ce qui m'inquiétait a arrêté de m'inquiéter instantanément. Et vraiment pas un seul instant, je n'ai pensé qu'il pouvait nous arriver une autre merde, en fait. Je pense que vraiment, dans ma tête, c'était comme, ça y est, on a vraiment vécu tous les pires trucs et c'est fini. Donc, on était dans un état d'allégresse et de joie qui était sans aucune ombre, quoi. Enfin, genre 100% de mes inquiétudes se sont dissipées. J'étais juste tranquille et joyeuse. Je me souviens que mon père m'avait dit un truc qui m'avait fait super rire. Avant que le médecin me dise que je craignais de faire une fausse couche, que je risquais pas de faire de fausse couche. J'avais dit à papa, je lui avais dit ça exactement, je lui ai dit, oh, le seul truc qui m'inquiète, c'est la fausse couche, et après, je serai plus inquiète et je pourrai être tranquille. Et il avait explosé de rire. Il m'avait dit, ah non, 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 ma chérie, je suis désolée de te dire ça, mais l'inquiétude, tu sais pas encore ce que c'est. Tu sauras ce que c'est l'inquiétude quand tu auras ton bébé dans les bras et que ce sera le reste de ta vie d'être inquiet pour tes enfants. Il m'avait dit ça, et donc c'était un souvenir encore qui nous avait fait rire.
Les semaines passent. Bien nichée dans sa bulle de joie, Anne-Solange est sereine. La première échographie, qui a lieu habituellement vers 12 semaines d'aménorrhée, est programmée un peu plus tardivement. Toutefois, le rendez-vous ne se passe pas bien. Le bébé est positionné sur le côté, le médecin a du mal à réaliser l'échographie.
Et en fait, il nous a dit « Ah, bah, c'est marrant, bah, ça doit pas être... on va attendre quelques jours encore, là, je vois qu'il se retourne pas. » Enfin, il nous a un peu embrouillé. Maintenant, je me rends bien compte qu'en fait, il avait vu ce qui se passait et qu'il n'était pas le spécialiste du truc et qu'il voulait nous confier aux spécialistes de ces histoires-là parce qu'il avait peur de nous donner un diagnostic qui n'était pas le bon, mais qu'il avait tout ça. Si bien que quand on est retourné, je crois, une semaine après, en fait, déjà, on avait dit... On était déjà revenu de l'échographie où tout le monde était là. Alors, c'est quoi les images de l'échographie? Et qu'on a dit à tout le monde, non, non, mais c'est pas grave, mais bon, c'était un peu tôt. Alors que bon, quand même, j'avais déjà dans ma tête que non, en vrai, c'était un peu tard. Donc, je le savais, mais on s'est un peu laissé embrouiller dans cette histoire. Donc, du coup, il n'y a pas eu non plus de, il y a eu ça. Et ensuite, donc, il y a eu cette échographie où là, pour le coup, le médecin est arrivé. Il nous a même pas regardé, il nous a pas dit bonjour, et j'ai dit je sais plus quoi, et j'ai juste dit, enfin j'ai dit un mot, une phrase dans laquelle il y avait bébé, et il m'a interrompu, il m'a dit non non madame, vous avez pas de bébé pour l'instant, vous avez un fœtus, et ce sera quand vous le tiendrez dans vos bras. Voilà, donc il m'a dit ça. Cet homme-là, je l'ai recroisé après, et juste de le voir, j'ai de la panique qui monte en moi en fait, tellement c'était affreux de recevoir ça. Mais en fait le truc c'est que ça a été une chose. Mais en fait, lui, je pense qu'il savait déjà ce qu'il avait, parce qu'il avait déjà les images de l'échographie d'avant. Donc en fait, il savait ce qui se passait. Donc il est arrivé, je pense, avec une idée de déjà nous annoncer un peu que ça allait pas bien se passer. Donc il a fait l'échographie, et après ça, il nous a dit très tranquillement, c'est un nigroma cervical, enfin, il nous a expliqué un peu le truc. Il a appelé ça une particularité, il a dit, alors vous, il y a une particularité. Il a dit, ça peut indiquer plein de choses, une trisomie, un problème cardiaque. Donc, il est un peu dit en mode, il y a quand même de l'espoir.
Le médecin détecte chez le bébé ce qu'on appelle un nigroma cervical. Comme le dit Anne-Solange, il souligne qu'il y a de l'espoir, que tout n'est pas terminé. Mais plusieurs examens doivent être réalisés et on finit par parler d'interruption médicale de grossesse. Voilà, petit toi, à l'intérieur. Nous devons décider si ce corps que nous t'avons fabriqué avec ton papa est un véhicule en assez bon état pour te permettre de traverser la vie dans de bonnes conditions. Accepter d'être séparée de toi, moi qui respire déjà pour deux, quelle folie, n'est-ce pas? Le rôle de maman, croit-on, consiste à tenir la main des petits sur les routes de la vie. Mais ce qui nous donne le courage d'imaginer de te laisser partir, ton papa et moi, procède exactement de la même force. Et c'est cela que je désirais t'expliquer. Ce geste-là aussi, mon ange, si nous devions le pratiquer, ce serait ça, t'aimer. Ces mots, ce sont ceux qu'Anne-Solange a écrits à son bébé, au moment où tout n'était qu'incertitude et questionnement. Finalement, le diagnostic tombe. Le bébé qu'Anne-Solange attend souffre d'une trisomie 18, une pathologie incompatible avec la vie. Du fait de cette trisomie, des malformations touchent les organes, notamment les organes vitaux, et la très grande majorité des fœtus décèdent même in utero, d'après le site de Santé publique France. L'IMG aura donc lieu en octobre 2018. Anne-Solange a déjà témoigné sur cet aspect de sa vie, de sa maternité, et sur son accouchement dans l'épisode 9 du podcast Le Tourbillon. Mais revenons-en à ce moment où tout bascule, cette fameuse échographie du premier trimestre. Anne-Solange le dit elle-même, son mari et elle ont été très entourés, par leur famille, par leurs amis. Mais il n'empêche que parmi toutes ces personnes, certaines ont eu un rôle très spécial. Rentrée chez elle, Anne-Solange téléphone tout de suite à sa maman. Et cette dernière va donner vie à une communauté qui va se construire autour de sa fille. La communauté de celles qui savent. Vous l'entendez, le cœur de ces femmes d'une autre génération, ces femmes qui ont été touchées par le deuil périnatal. Cette clameur qui, dans un mouvement extraordinaire, entoure Anne-Solange de toute la bienveillance possible. Ces voix de femmes, qui tapis dans l'ombre d'un deuil encore plus invisible à leur époque, se dressent dans la lumière pour soutenir l'une des leurs et pour la porter à bout de bras et la soutenir à chaque instant.
quand je suis rentrée à la maison, bah, tout de suite, j'ai appelé ma mère et je lui ai dit, il y a un vrai problème avec le bébé. Et en fait, elle, je pense, de son côté, a appelé ses amis. Et donc, ses amis m'ont appelé. Et il y a eu ce truc qui se forme des fois quand on est un super groupe et qu'on a de la chance. Tout le monde a fait vraiment comme bloc autour de moi. Et c'est là que j'ai appris que une des amies de maman avait perdu un bébé à 7 mois de grossesse. Moi-même, je connaissais déjà cette personne. J'étais enfant, tu vois. J'avais peut-être 6 ou 7 ans. Mais quand c'est arrivé, j'étais déjà là. C'est un enfant que j'aurais pu connaître aussi, tu vois. Et l'une avait aussi perdu son bébé dans des conditions complètement dramatiques au même moment que moi et avait, elle, fait sa fausse couche dans les toilettes sans que personne lui donne aucune indication, machin. Et en fait, autour de moi, il y a eu vraiment ce grand moment de femmes me disant « Alors moi, j'ai pas vécu ça, mais j'ai vécu ça. » Et ça, je pense que toutes ces histoires de femmes, surtout des femmes d'une autre génération que moi, qui ont vraiment, elles, toutes vécu ça dans l'indifférence la plus complète. En fait, elles étaient toutes rassemblées autour de moi, tu vois. Donc, il y a eu vraiment ce truc où ça avait beau être extrêmement difficile. Franchement, j'étais très, 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 très entourée. À la seconde où ça c'est où nous on a eu les premiers trucs, ça veut dire que après ça a duré je pense 1 mois d'examen, de machin, de trucs, ou 3 semaines peut-être, je sais pas. Et en fait à chaque instant de tout le processus, il y avait toutes les personnes féminines notamment, enfin pas que féminines, mais disons que c'est plus avec les femmes qu'on a partagé parce que elles étaient comme plus conscientes probablement de ce qui se jouait pour moi et pour nous. Et du coup, on a vraiment été mais portés et entourés, mais tu sais, comme genre vraiment totalement. Donc, on a été tellement soutenus à ce moment-là que bah c'est sûr, ça nous a aidés à traverser les choses. Et je peux pas dire que je me sois sentie seule parce que vraiment à la seconde où c'est arrivé, on a été pris dans les bras de notre groupe de gens qui nous aiment et qu'on aime en retour. Dans toutes les choses de la vie. Je pense que c'est pareil dans la maternité, quand on a des enfants. Il y a tout ce qu'on s'imagine, mais il y a ce qui arrive vraiment quand t'as vraiment des enfants. Et ça, je pense que c'est ce regard-là que t'as entre personnes qui vivent la même chose et qui savent de quoi elles parlent enfin, et qui du coup bah, peuvent se comprendre. Ça veut pas dire que les autres sont exclus de ça et comprennent rien, mais il y a quand même une dimension, une hauteur de compréhension. Et ça a aussi cette dimension magnifique que bah, du coup, c'est sûr qu'on accède à une... Bah, je sais pas, on accède à une connaissance de l'autre qui est dans une autre dimension. C'est sûr que les amis de maman et mes tantes et qui ont eu la délicatesse de me confier ça, bah, y a un lieu où c'est sûr qu'on est encore plus proche et où je les connais mieux et où elles me connaissent mieux et c'est vraiment ça, c'est l'aspect magnifique de la vie et c'est les cadeaux de toutes ces épreuves là quoi. C'est que on accède à des rencontres qui sont belles avec des gens qu'on connaît déjà.
Anne Solange et son mari viennent de traverser un deuil, le deuil le plus terrible qui soit. Mais pour la première fois, après un parcours en PMA très compliqué et très long, Anne Solange est tombée enceinte. Le couple a été si bien entouré, notamment d'un point de vue médical, qu'une nouvelle fécondation in vitro est organisée dans les premiers mois de l'année 2019. Anne Solange sait que c'est possible, qu'il y a un espoir, que cela marche à nouveau. Et c'est ce qui arrive. Elle tombe enceinte pour la seconde fois en moins d'un an, après des années de procréation médicalement assistée.
Cette épreuve-là du premier bébé, je pense qu'on était prêts et capables de ça parce qu'on a été aussi bien entourés que ce que je t'ai expliqué. Et il y a aussi le personnel médical. Enfin, vraiment, on a vraiment été entourés. Je pense pas qu'on puisse offrir à deux êtres humains dans une situation comme la nôtre plus que ce qu'on a reçu. Vraiment, on a été entouré au maximum de tous les aspects possibles. On a fait que des rencontres de gens exceptionnels à toutes les étapes de ce parcours. Donc, du coup, je pense que ça explique aussi le fait que on se soit senti prêt à recommencer assez vite. Même si on nous avait un peu dit « dépêchez-vous, n'attendez pas ». Et donc, voilà. Donc, je suis tombée enceinte. Et du coup, franchement, c'était cool, quoi. Enfin, j'étais vraiment... contente. Enfin, c'était pas la même joie extatique que la première fois, mais j'étais contente et puis je me disais que bon, bah, ça allait aller.
Mais cette seconde grossesse s'arrête au bout de quelques semaines. Anne Solange traverse cette fois-ci l'épreuve de la fausse couche au premier trimestre. une fausse couche tristement classique, tristement banale si l'on en croit les statistiques, une grossesse sur 4, une grossesse sur 5, mais une fausse couche qui remet en cause tous les projets qu'Anne Solange et son mari avaient nourris pendant des années. À partir de ce moment-là, elle perd peu à peu l'espoir de voir un jour un enfant agrandir sa famille.
En fait, moi, ça faisait déjà 2 semaines que je ne sentais plus aucun symptôme de grossesse. C'est marrant parce que tous les gens te disent en permanence, et toi-même, tu te dis en permanence, écoute ton corps, c'est toi qui sais, c'est toi qui sais mieux. Puis alors, quand il survient un truc que personne n'a envie qu'il arrive, tout le monde est là, non, mais c'est sans doute le... Donc moi-même, je me disais, non, mais tout va bien, m'inquiète pas. Et donc, j'ai eu des saignements. Non, mais je m'inquiète pas, c'est pas grave, je sais que ça arrive, machin. Et quand même, c'est mon médecin qui m'a dit, si, vous allez faire une échographie tout de suite, en urgence. Et en fait, bah là, la grossesse s'était arrêtée depuis effectivement 15 jours, le moment où j'avais senti que les symptômes s'étaient arrêtés. Donc c'était j'avais bien senti les choses. Et puis bah après, du coup, comme là, elle était pas très avancée, hein, je devais être enceinte de 4 semaines, un truc comme ça, ou 6 semaines. Enfin, j'ai même pas eu besoin de prendre rien de déclencheur. Tu vois, ça s'est passé. Et puis bon, bah ça a duré le temps que ça a duré, quelques jours. Et c'était, je sais pas comment dire en fait. Je me souviens je pense qu'avec mon mari, on a pleuré genre tout ce qu'on savait pendant 24 heures. Et puis après, je sais pas comment dire. Je me souviens que j'étais fâchée, quoi. J'étais tellement en colère. J'avais une sorte d'énergie de colère, mais vraiment colossale, quoi. J'étais fâchée. J'étais vraiment en colère. Voilà, c'était juste de la colère que je ressentais. Je trouvais que c'était injuste, que c'était pas possible, que voilà, j'étais trop en colère. Le médecin m'avait demandé du coup de faire des examens complémentaires qu'on n'avait pas encore fait. Donc ça, du coup, ça a pris un petit peu de temps avant qu'on refasse la PMA, et je me souviens que ça a dû prendre 2 mois. Franchement, notre médecin, il était vraiment génial. C'était un super mec. Et j'avais vraiment confiance en lui. Donc, aller le voir, c'était vraiment pas en soi une épreuve. C'était pas quelqu'un qui me faisait peur. Il avait une manière parfaite d'annoncer les choses. Enfin, il était vraiment super. Mais par contre, j'ai vraiment ce souvenir de plus avoir pensé à des trucs de PMA pendant 2 mois et la veille du rendez-vous avoir commencé à me mettre à pleurer.
Malgré la lassitude, malgré l'extrême fatigue, Anne Solange et David refont plusieurs tentatives pendant l'année 2019. Mais maintenant, Anne Solange a peur. Peur de revivre une grossesse, mais peur aussi de rentrer à nouveau chez elle, le ventre et les bras vides.
Je voyais plus la lumière au bout du tunnel, quoi, vraiment. Et puis surtout, en fait, j'étais comme, tu sais, quand t'as peur d'avoir mal. Il y avait vraiment ce truc où je me disais, mais en fait, maintenant, j'ai même peur d'être enceinte parce que j'ai peur de encore vivre ça et j'en peux plus vivre ça, quoi. J'ai plus l'espace pour être heureuse d'être enceinte, j'ai plus l'espace de ça, j'ai que peur, en fait. C'est que de la douleur. Il y avait plus le lieu où je me disais... ça va arriver, enfin, je vais être joyeuse, quoi. Ça va être bien et on va être content. Je voyais toute une grossesse longue et douloureuse. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la dernière stimulation qu'on a faite, ça a rien pris. En fait, j'avais un ovocyte qui avait grandi. Et moi, je me souviens vraiment être dans le cabinet du médecin et avoir su que c'était la dernière. M'être dit, OK, ça marchera jamais. C'est sûr, ça marchera. Enfin, ça peut marcher sur un miracle, donc on peut décider que on va tenter des miracles tout le temps. Mais moi, je pense que ça marchera jamais et je peux plus. Ça a été vraiment le moment où j'ai senti que pour moi c'était radical et ça a été assez dur parce que je suis sortie de là en larmes, évidemment, comme on est quand on voit que ça n'a pas du tout marché, qu'on a les traitements maximum qui peuvent être donnés à quelqu'un et que c'est comme pisser dans un violon. Et vraiment, tout le monde autour de moi me parlait comme si j'étais une débile qui avait rien compris, quoi. Vraiment tout le monde, même mon mari, on se dispute jamais. Ben, en fait, on se dit, par exemple, avec David, on se dispute jamais. Et là, je l'ai appelé en pleurant, en lui disant, il n'y a rien, ça n'a pas marché. Peut-être que j'étais un peu confuse aussi. Et lui, il m'a dit, mais arrête, n'importe quoi, c'est n'importe quoi, quoi. Et j'ai dû appeler encore quelqu'un d'autre pour avoir encore quelqu'un auprès de qui m'est penché, qui a eu pareil, du « Oh, mais c'est bon, mais t'inquiète pas, c'est juste que t'es un peu surmené, t'es un peu fatigué. » Enfin, j'ai vraiment eu le sentiment pendant 3-4 jours que les gens voyaient pas qu'en fait, c'était fini, quoi. Et que ce que mon médecin a confirmé après, il nous a dit, bah oui, il peut y avoir un miracle, mais en effet, là, on est plus ou moins arrivé... au bout de la réserve, quoi. Donc, bon, il n'y en a plus, on va pas les inventer, quoi. Donc, et en fait, c'était vraiment un moment pendant lequel je sentais que tous les gens autour de moi ne comprenaient pas que c'était pas juste moi qui décidais que c'était fini, c'était que, en fait, je pouvais imposer à mon corps encore des traitements, mais que les chances pour que ça arrive étaient de l'ordre du miracle. Donc, on pouvait, enfin, je pouvais quand même me réserver le truc de dire, en fait, là, on peut considérer que ça marchera pas. Et c'est pas moi qui baisse les armes, quoi. C'est juste que, ben, en fait, je n'ai plus d'ovocytes. Je vais pas les inventer. Ça, ça a été le moment de rupture de, OK, ça marchera jamais. Et ça a été évidemment, je dirais, 4-5 jours vraiment horribles. Ça a été 4-5 jours de même, enfin, j'ai même fait des attaques de panique. Enfin, vraiment, j'ai plus dormi. C'est la seule fois de ma vie où j'ai pris des calmants parce que je dormais plus du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, enfin, j'avais une tête qui était, j'étais méconnaissable. Ça a duré ça quelques jours et ça a pas duré longtemps, mais ça a duré comme 4-5 jours. Et au terme de ces 4-5 jours, donc, on a commencé à réfléchir à l'idée du don d'ovocytes.
La réserve ovarienne d'Anne Solange étant épuisée, un don permettrait effectivement d'envisager une autre grossesse. Le couple se tourne donc vers l'Espagne, où les délais sont bien moindres qu'en France. Malgré tout, un déclic se produit au même moment. Désormais, Anne Solange n'envisage plus du tout les choses de la même manière. D'autant que le premier confinement de mars 2020 oblige les centres de PMA à fermer.
Et alors ce qui a été fou, c'est qu'on est vraiment passé en 72 heures de « on n'aura jamais d'enfant » à « si on veut un enfant, en gros, il suffit de faire ça et on va l'avoir ». Mais ce qui est très bizarre, c'est que moi, à ce moment-là, ça a été vraiment le moment où j'ai vraiment pour de vrai senti « ok, on aura peut-être un enfant ou on n'en aura peut-être pas et c'est ok ». Et ça, je ne sais pas du tout qu'est-ce qui a créé ça, j'ai pas de réponse à ça. Mais je sais que moi, pour moi, ça a été vraiment l'instant où j'ai décidé que c'était fini la souffrance liée à ça, que c'était fini de refuser à 100% l'idée qu'il n'y ait pas d'enfant dans notre vie, et que maintenant, ça allait être un parcours qui allait se faire, et que dans tous les cas, ça allait être bien, et que ça allait être cool, et qu'on allait être heureux, et que ça allait pas jouer qu'on ait un enfant ou pas, que si on avait un enfant, bah, on aurait un enfant, puis on verrait ce que c'est de la vie avec un enfant, et avec tout ce que ça a de joie, et peut-être pas de joie, de toutes les choses de la vie de parent, et que si ça n'arrivait pas, eh ben ça n'arriverait pas, et que on aurait accès à toute la joie qu'on a déjà dans notre vie et ce que ça permet dans une vie d'avoir à s'occuper que de soi-même au quotidien. Enfin, parce qu'évidemment, on s'occupe pas que de nous-mêmes, mais voilà, d'avoir du temps à ne plus savoir qu'en faire. Même si moi, je sais toujours quoi en faire, donc c'est très bien. Et il y a eu le confinement qui a été un soulagement, mais complet de plus penser à ça. En fait, c'était vraiment merveilleux de juste plus penser, en fait, de plus être dans ce truc. D'enfant pas enfant. Quand des éléments extérieurs vraiment empêchent tout, tu peux plus, il y a plus rien à faire. Donc t'attends. Et c'était tellement cool d'attendre, de plus avoir ça dans la tête et de pouvoir investir d'autres champs de vie que celui-là. C'était vraiment génial. Et puis, alors ça c'est encore un autre débat, mais on a décidé que on allait arrêter là finalement. En fait, on s'en est rendu compte qu'on avait décidé ça à la fin, en fait, quand il s'est agi de rappeler le centre de PMA en Espagne, on s'est rendu compte qu'on n'avait plus envie, quoi. Puis on a essayé du coup de décortiquer, c'était quoi plus envie ? Est-ce que c'était plus envie du tout ? Est-ce que c'était plus envie maintenant ? Est-ce que tout ça ? Et puis finalement, on a décidé que on s'en tiendrait là, et donc bah voilà, on en est là aujourd'hui. Depuis environ, ça va faire un an, je pense, où on a décidé que c'était une aventure qui était derrière nous et que donc, ben, on allait vivre une vie sans enfant, heureuse et épanouie, voilà, avec ce contexte qui n'était pas celui qui était prévu, mais qui est celui qui nous est offert. Alors après, c'est le choix qu'on a fait, nous. Et vraiment, bon, c'est des choses très, très personnelles et je pense qu'il n'y a pas de... On aurait pu choisir d'aller au bout de ça, et bon, peut-être que je serais tombée enceinte, peut-être que ça aurait pas marché encore, peut-être que je sais pas, mais nous on a décidé que c'était qu'on allait s'arrêter là, quoi. Je pense que j'ai commencé à ouvrir les yeux sur cette question après ma fausse couche. Ça a été le moment où j'ai commencé à regarder les femmes vivre. En fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que autour de moi, il y avait des femmes que j'avais jamais qualifiées, moi, comme étant avec enfant ou sans enfant. J'avais jamais vraiment fait cette différence. Mais en fait, bah, autour de moi, des femmes qui n'ont pas d'enfants, il y en a un paquet. Il y en a eu un paquet dans ma famille, dans la famille de mon mari. Il y avait une sœur de ma grand-mère. Les deux autres sœurs de mon autre grand-mère étaient des femmes qui n'avaient pas d'enfants. Une des tantes de David, ils n'ont pas d'enfants. Et que, en fait, j'avais juste jamais considéré le parallèle de avoir des enfants, avoir pas d'enfants. Tu vois, dans ma tête, je n'avais jamais réfléchi à ça. Et c'est vrai que du coup, je pense que je me suis beaucoup plus laissée inspirer. Mais oui, ça m'a aidé aussi, je pense, à ce moment-là, à commencer à observer comment était la vie de ces femmes-là, qu'est-ce qu'elles faisaient de leur vie, comment est-ce qu'elles construisaient leur existence. Et je pense que oui, ça a été certainement un des moments où j'ai commencé à réaliser que ma vie allait pas être moindre ou de moindre importance ou allait pas être amputée nécessairement. Elle allait être amputée que si moi j'étais vraiment convaincue que c'était une amputation et que si moi je m'accrochais à l'idée qu'une vie de femme épanouie ne pouvait se faire qu'avec la maternité parmi d'autres choses. Mais si j'acceptais de regarder les choses sous un autre angle, bah peut-être que je pouvais considérer que ma vie allait être aussi pleine et aussi épanouie, remplie en tout cas, de choses qui en valaient la peine. Après, bon, bien sûr, c'est des pensées qui vont et viennent, évidemment. Il y a quand même des jours où je regarde les gens qui ont des enfants autour de moi, puis, évidemment, je me dis quand même que ça aurait été une belle expérience. Et puis, il y a d'autres moments où, franchement, je me dis aussi, et quand même, c'est vraiment cool de pouvoir faire tout ce que je veux de ma vie tout le temps. C'est trop sympa. Et c'est vraiment cool, quoi. J'ai tellement d'opportunités. C'est vraiment cool, quoi. C'est regrettable que ce soit à la suite d'événements aussi malheureux. Mais bon, en vrai, si en plus je crache sur les choses positives que ça donne, c'est la fin des haricots, quoi. Donc, voilà. Mais le truc, c'est que pendant des années, j'étais pas capable de ressentir ça. Et je pense que quand on est dans un parcours de PMA, c'est quand même difficile parce que ça mobilise tellement d'énergie que c'est difficile de se dire « Oh, si ça marche pas, c'est pas grave. » Mais j'ai quand même l'impression que s'il y a des gens qui arrivent à vivre ça comme ça, c'est vraiment génial parce que c'est sûr que c'est comme ça qu'on peut traverser ça sans que ce soit une épreuve, en fait. Mais bon, moi, j'étais pas dans cette catégorie-là de personnes. J'ai vraiment donné tout ce que je pouvais à ça. Et voilà. Maintenant, je peux me dire sereinement que j'ai fait tout ce que je pouvais, et puis voilà.
Anne Solange, elle a toujours une manière très fine de nuancer ses propos et de remettre les choses en perspective. Elle parle d'elle au présent, mais elle n'oublie jamais de parler de ce qu'elle était avant et de ce qu'elle pensait quand elle avait la tête dans le guidon et que ce qu'elle voulait avec tout son cœur et son corps, c'était d'un bébé à chérir et à bercer. Cela fait maintenant plus d'un an que son mari et elle ont décidé de vivre une vie sans enfant, pour reprendre leurs mots. Une décision qui a fait suite à 6 années de PMA, précédée de pas mal d'années à constater qu'elle n'arrivait pas à tomber enceinte. Peut-être que vous, qui écoutez cet épisode et qui avez la tête dans le guidon, vous ne pouvez pas envisager les choses comme Anne Solange les envisage aujourd'hui, et c'est bien normal. Mais peut-être que ça vous fait du bien aussi d'entendre le sourire qu'elle a dans la voix et d'entendre ses mots empreint de lucidité.
Et du coup, j'ai eu un petit peu le sentiment, avec le recul, qu'on m'a fait croire que c'était gagné mon affaire et que si je faisais tout bien comme il fallait, ça allait marcher. Et je pense que j'aurais aimé être un peu plus préparée à l'idée que peut-être ça allait pas marcher. Je crois vraiment que j'aurais préféré être entourée et qu'on tempère qu'on tempère vraiment dans le langage le fait que c'était dans ma tête et dans la tête. Enfin, tout le monde s'est toujours comporté avec moi comme si c'était certain que ça allait marcher. Même par exemple, typiquement quand on a fait l'interruption de grossesse, le généticien qui s'est occupé de nous, il nous a dit oh, mais vous êtes jeune, vous en aurez d'autres des enfants. Et en fait, il savait qu'on était dans un parcours de PMA depuis des années et j'aurais bien aimé que d'emblée je me prépare et que je sois émotionnellement prête à ce que ça marche ou pas. Parce que je crois vraiment que la conviction absolue que ça allait fonctionner m'a habitée et je pense m'a un peu détruite à un moment donné. Je pense que vraiment ça m'a démolie à un certain point parce que dans ma tête c'était pas envisageable quoi. Il y avait vraiment je voyais bien que j'étais en train de mettre en jeu ma santé, que j'étais en train de tout mettre en jeu au service de ça parce que ça allait marcher et que donc, si ça ne marchait pas, ça c'est peut-être bien féminin, mais que si ça marchait pas, c'était de ma faute. C'est-à-dire que vraiment, j'avais le sentiment que toutes les choses que je ne faisais pas au service de ça, comme voir un énième médecin, praticien, je sais pas quoi, prendre un énième complément. En fait, il y avait toujours tous les interstices de toutes les choses que je ne faisais pas. Et oui, il y avait une part de moi qui me disait, mais ça, il faut le faire parce que tu vas y arriver. Et si jamais tu n'y arrives pas, c'est parce que tu n'auras pas fait tout ce qu'il fallait, tu vois. Et peut-être que c'est mon tempérament et qu'il y a d'autres femmes qui vivent pas les choses du tout comme ça. Mais moi qui ai tendance à penser qu'il fallait que je fasse ce qu'il fallait, tu vois, et que si je faisais ce qu'il fallait, ça allait marcher, et que ça marchait pas, ça créait chez moi l'impression que c'était forcément moi qui faisais pas ce qu'il fallait. Et je pense que c'est assez récent d'ailleurs que je commence à me dire qu'en vrai, j'ai fait vraiment tout ce que je pouvais, et que bon, bah, même je pense que j'ai encore besoin de travailler un peu l'aspect de finalement on a renoncé au dos de vos sites, parce qu'il y a une part de moi, je pense, qui me répète tout le temps que si j'avais vraiment voulu, ben en fait peut-être qu'on aurait un enfant aujourd'hui et que gnagnagna, mais en réalité on a arbitré entre plein d'aspects de notre vie, plein de nos valeurs, plein de choses, et on a pris cette décision là mais je pense qu'il y a ce truc très féminin de penser qu'on est vraiment responsable et que si on avait mieux fait les choses, on aurait réussi. Ce que je dis là, il y a quelques années, on m'aurait dit que moi, je dirais ça et que je le penserais de tout mon cœur, vraiment. Clairement, je n'aurais pas cru ça. Dans ma tête, c'était forcément renoncer et accepter la vie, amputer de quelque chose d'essentiel et devoir un peu être plus ou moins en mode de survie, quoi. Et bon, bah, peut-être que tout simplement aussi, le temps fait son travail et, et nous permet d'éclaircir le ciel. Et voilà, mais c'est sûr que... Il y a un vrai processus de guérison et une des choses dans lesquelles on peut avoir confiance, c'est que ce processus se fait, mais que par contre, je comprends aussi que quand on est dans un parcours de PMA, on n'a pas envie de penser à cette éventualité parce que ça demande trop d'énergie, on a besoin que ça marche, sinon on abandonne, c'est trop dur. Donc moi, je pense que vraiment, j'ai eu des moments où il y a des gens qui m'ont dit des choses un peu comme ça. J'ai rencontré aussi une personne, une amie de ma maman qui a un parcours très semblable au nôtre, et avec son mari, ils n'ont jamais eu d'enfant. Et même, ils ont, eux, ça a été encore autre chose, parce que je crois qu'elle est partie adopter un enfant dans je ne sais plus quel pays, où ils ont passé je ne sais pas combien de temps, puis finalement, il ne s'est rien passé. Enfin, c'était vraiment comme cauchemardesque. Et c'est marrant, on n'en a jamais parlé. On a eu juste un échange de mots. J'ai dû dire alors... Et ça va, t'as pas eu d'enfant, et ça va. Puis elle a eu un sourire vraiment charmant, et elle a dit, oh bah oui, depuis le temps, vraiment, c'est vraiment quelque chose qui, c'est comme, genre, c'est vraiment passé. Et j'ai vraiment senti que c'était vrai, en fait. Et ça m'a paru complètement, tu sais, genre, je vois pas comment, moi, ça pourrait m'arriver d'être heureuse et que ça avait pas marché. Donc sur le coup, ça m'a pas parlé, évidemment, parce que j'étais pas du tout dans ce truc-là, et je me suis pas dit, oh là là, ça peut être bien, tant mieux. J'ai juste pensé, je vois pas du tout comment c'est possible, et moi, je suis pas du tout là. Mais en revanche, rétrospectivement, le sourire, bah tu vois, juste de te le penser, ça m'émeut, parce que rétrospectivement, je me rends compte en te le disant, j'y avais jamais pensé, mais que le moment où Sylvie a dit, en riant et en parlant de ses neveux sans tristesse, tu vois, avec... Je sais pas, mais tu vois, moi j'ai traversé un moment où tous les enfants autour de moi, j'étais triste en fait quand on parlait d'enfants autour de moi, même les enfants que j'aime, c'était dur d'entendre parler d'eux, quoi. Et elle, de voir que bah elle tissait des liens avec ses deux et que c'était joyeux et qu'elle en parlait avec l'amour honnête normal que moi maintenant j'ai retrouvé aussi pour les enfants de mon entourage et qui est pas teinté de tristesse en fait. Et ça me paraissait impossible. Et c'est juste, bah tu vois, maintenant en fait, oui, je me rends compte que ce qu'elle a dit à ce moment-là, même si ça me parlait pas et que je m'y suis pas intéressée, ça a vraiment joué dans après quand il s'agit moi de me construire avec ça.
Cet épisode touche à sa fin et je te remercie Anne Solange d'avoir accepté de témoigner au micro d'Aurore Podcast. Merci de nous avoir raconté ton histoire liée à la maternité, cette histoire à laquelle se sont agrégées toutes ces femmes qui, elles aussi, ont vécu un deuil périnatal ou qui ont dû renoncer à accueillir un autre enfant au sein de leur famille. Merci de nous avoir montré qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas, mais qu'au bout du compte, petit à petit, la vie peut redevenir belle. Les parcours de PMA et de deuil périnatal ne se terminent donc pas toujours par le happy end qu'on espérait. Mais la plus belle fin qui soit, au bout du compte, c'est tout de même de se dire qu'on peut avoir une vie cool, pour reprendre l'un des mots préférés d'Anne Solange, et heureuse, même si ce n'est pas celle que l'on avait envisagée. Je suis Sophie Dechivré et j'ai eu le plaisir de réaliser, monter et mixer cet épisode. Alors si vous avez à cœur de soutenir Au Revoir Podcast et d'offrir à ce projet une plus grande visibilité, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcast. Je Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous le 7 octobre prochain pour un entretien avec Judith Akin, l'autrice du livre « 3 mois sous silence, le tabou de la condition des femmes en début de grossesse » paru en mai dernier. En attendant, n'hésitez pas à suivre l'actualité d'Au Revoir Podcast sur les réseaux sociaux et notamment sur le compte Instagram aurevoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal. Je vous dis à très bientôt.